Soyez bienvenus, nous sommes heureux de vous retrouver sur RFI et sur TV5Monde International, émission que nous réalisons en collaboration avec le quotidien français Le Monde. C'est sans doute la menace la plus forte ressentie actuellement par les Européens. Il s'agit bien sûr du terrorisme. Il a frappé en Europe beaucoup l'année dernière, à Bruxelles, deux fois à Paris, on s'en souvient. Et Daesh vient de proférer de nouvelles menaces, annonçant des frappes, des actions contre plusieurs pays européens, dont la Grande-Bretagne. L'Union peine à riposter, à coordonner ses actions. Il faut une réponse globale, une réponse européenne, entend-on. Eh bien, un organisme existe d'ores et déjà pour coordonner cette action. Il est dirigé par Gilles de Kerckhoff. Merci d'être avec nous, d'être sur le plateau de TV5 et de RFI. Nous vous poserons beaucoup de questions avec Sophie Malibaud de RFI et de Christophe Ayat, journaliste au Monde. Nous allons voir, peut-être avant de vous retrouver, les toutes dernières réponses en matière de coordination du renseignement. Les Européens viennent de renforcer les outils pour tenter justement de parer la menace.
Musique rythmée et animation 3D. Le clip de présentation a tout de l'opération de communication. Mais pour la première fois, les polices européennes ont rassemblé sur un site internet unique et accessible par tous les fiches des fugitifs les plus recherchés à l'international. Salah Abdeslam, par exemple, y figure en bonne place. Une liste publiée quelques jours seulement après le lancement officiel à Amsterdam du nouveau centre européen de contre-terrorisme.
Le centre permettra d'améliorer l'échange d'informations entre les services de sécurité dans toute l'Europe. Europol, qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, fournira un support immédiat et direct.
C'est au siège d'Europol à La Haye que la cinquantaine d'agents de la nouvelle structure a désormais la lourde responsabilité de combler les failles du renseignement européen. Car depuis les attentats de novembre à Paris, les ratés de la sécurité dans l'espace Schengen sont nombreux. Comment se fait-il par exemple qu'Abdelhamid Abaoud, pourtant fiché comme terroriste, ait multiplié les allers-retours en Syrie en passant par plusieurs pays européens ? Salah Abdeslam était surveillé de près par les policiers belges avant les attentats, mais était inconnu en France. Et que dire du cas Mehdine Mouche ? Il voyage en Syrie puis rentre en Belgique via l'Allemagne avant la tuerie de Bruxelles. Il sera finalement arrêté lors d'un banal contrôle douanier à Marseille. Alors depuis, la France a frappé du poing sur la table et exigé des 28 qu'ils accélèrent.
Mise en place d'une task force avec des équipes dédiées à la lutte contre la fraude documentaire, contrôle aux frontières extérieures, montée en puissance de Frontex, interrogation du SIS, connexion du SIS avec les autres fichiers criminels.
Le SIS, le système d'information Schengen, existe déjà. Encore faut-il l'adapter. Pressée d'agir, l'Europe part avec un certain retard. La liste des fugitifs les plus recherchés est diffusée aujourd'hui par Europol, par exemple. Aux États-Unis, une telle liste, le FBI en publie une depuis plus de 60 ans.
Gilles de Kerckhoff, vous le savez, il y a un débat notamment en France sur le fait que les réponses tardent par rapport aux attentats. Il y a tout juste un an, nous vous recevions ici les attentats de Charlie. La question est posée, qu'est-ce qui a été fait pour empêcher les attentats ensuite du 13 novembre, toujours à Paris ? On vient de voir cet outil qui se met en place. On est tenté de se demander, mais vraiment, pourquoi il a fallu attendre aussi longtemps ?
Alors bon, les outils ont beaucoup évolué. Si je regarde ces deux dernières années, on a quand même fait des efforts considérables et on a chaque fois cherché à adapter l'outil au développement de la menace. Si vous prenez le cas de Nemouche, que vous avez à juste titre
l'auteur
évoqué,
de la tuerie contre
tuerie à Bruxelles. Nemouche était français, il a fait un parcours très compliqué et puis revenu dans l'espace Schengen. On a maintenant adapté le dispositif de sorte que ça ne se répéterait pas.
Mais on est toujours en retard.
On n'est pas assez rapide, certainement. Alors je dirais qu'il y a une responsabilité collective, il y a celle des institutions européennes, il y a celle aussi des États, parce que vous pouvez mettre en place tous les dispositifs européens que vous voulez, si les États ne les utilisent pas ou n'optimisent pas leur utilisation, en notamment mettant les informations qui s'imposent, ces outils ne marcheront pas.
Quand vous étiez venu ici l'année dernière, donc juste après les attentats contre Charlie, c'était aussi au lendemain d'opérations à Verviers. Et on savait pourtant déjà à l'époque ce qui se passait aussi un peu du côté de Molenbeek. Est-ce qu'on tiré les leçons, voilà, toujours en Belgique, donc est-ce qu'on a tiré les leçons du fait qu'entre 2012 et 2015, rien ne se soit passé pour empêcher les attentats ?
Comme je vous dis, je pense que on a quand même fortement resserré les mailles du filet. Il est tragique de constater qu'il y ait eu en même temps Paris la même année et le Bataclan contre Charlie et le Bataclan. Mais en même temps, on ne dit pas toutes les cellules qui ont été démantelées, toutes les personnes qui ont été arrêtées, toutes les personnes qui ont été empêchées de partir. Il y a tout de même beaucoup de progrès qui ont été faits. Alors c'est pas encore suffisant. C'est mon obsession nuit et jour, c'est d'essayer d'accélérer le tempo, de mettre de la pression sur le système, de mettre en place comme à Europol des réorganisations pour essayer d'optimiser. Parce qu'en fond, ce que Europol fait en créant ce département, c'est de mettre ensemble des morceaux qui existaient déjà pour qu'il y ait plus de croisements d'informations, oui, et plus de spécialisation.
Monsieur de Kerckhoff, il existe des nouvelles structures, mais est-ce qu'elles sont alimentées par les États? Puisque lorsqu'on va voir les services de renseignement, ils nous disent un renseignement qu'on partage avec 28 États, ce n'est plus un renseignement.
C'est effectivement
c'est trop public, c'est trop gros.
Vous avez raison, c'est le grand défi. Je pense que entre eux, les services de renseignement échangent beaucoup avec grande intensité. Ils travaillent 24 heures sur 24.
Donc en bilatéral.
Non, même multilatéralement, ils ont un groupe qui s'appelle le groupe antiterrorisme où à 28 et parfois dans des groupes plus petits à 11, ils échangent de manière totalement intense. En revanche, c'est souvent entre les différentes catégories, c'est-à-dire entre le renseignement et la police. Alors, en franco-français, il est vraisemblable et même certain que la DGSI partage énormément sous l'égide de l'UCLAT. La question, c'est par rapport aux plateformes européennes. Je vais prendre un exemple. Le SIS, qui est au fond la base de données la plus décentralisée.
Service d'information Schengen.
Le Schengen Information System, qui peut être consulté par le policier dans la rue, aux frontières extérieures, et qui est donc la base de données la plus utile aujourd'hui. Elle est alimentée par des types d'informations de différentes formes, notamment des personnes dont on ne souhaite pas l'entrée dans l'espace Schengen, des personnes qui sont recherchées aux fins d'arrestation, ou des personnes qu'il faut contrôler discrètement. C'était le cas de Abdeslam et c'était le cas de Nemouche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on les contrôle à un endroit dans l'espace ou à une frontière extérieure, on fait savoir à l'État qui a mis l'information que la personne était contrôlée à telle date.
Mais on l'arrête pas.
On doit, ah non, surtout pas. Parce que pour arrêter quelqu'un, vous devez avoir des preuves. Parce qu'ensuite, il faut le traduire en justice. Mon interprétation est que Nemouche, l'État français, au moment où il a mis l'information dans le SIS, n'avait pas suffisamment de preuves qu'il allait vers la Syrie et qu'il allait commettre un crime au regard du droit français. Et donc l'intérêt de ce SIS, c'est de pouvoir construire votre dossier au départ de soupçons. Vous pensez que quelqu'un se radicalise. Vous pensez à travers l'observation des services de renseignement qu'il change son comportement et qu'il est sans doute sur une trajectoire de djihadisme. Mais vous n'avez pas suffisamment d'éléments. Et donc vous le mettez dans le SIS. Et si vous découvrez qu'il part en Turquie et que vous actionnez vos contacts en Turquie pour essayer de construire votre dossier, vous essayez d'avoir suffisamment d'informations afin de l'arrêter. Et donc, vous devez avoir là des preuves. Et donc, dans le cas, effectivement, vous avez raison, il faut convaincre les services de renseignement de donner toute leur information au SIS. Mais le SIS, c'est un instrument policier qui est géré par des policiers. Et c'est donc un peu une des difficultés que nous avons. On a fait des progrès considérables. La France, par exemple, est l'État membre qui a le plus contribué à alimenter le SIS. Je crois que la DGSI a mis 8000 noms de personnes qui ont un contact ou un lien avec ce phénomène, et 2000 combattants étrangers.
Alors, lorsqu'on revient sur tout cela, on peut se demander si les États eux-mêmes ont une cohérence, échange de renseignements. Par exemple, à Bruxelles, où se trouve la Commission, 19 arrondissements de Bruxelles, 6 services de police différents qui se coordonnent mal. C'est aussi à l'intérieur des États qu'on peut progresser.
Bien entendu. Et entre non seulement les forces de police décentralisées, mais aussi entre tous les acteurs de la sécurité. Comme je l'ai dit, le renseignement, la police, les douanes, les magistrats. Il y a aussi beaucoup d'informations qui apparaissent dans la phase judiciaire, qui ne sont pas toujours renvoyées vers la phase du renseignement. Et donc c'est un énorme effort national et européen. Et donc c'est une des responsabilités qui m'incombe, c'est d'essayer de régulièrement faire rapport. Si vous lisez mes rapports, vous verrez que je suis assez transparent et d'ailleurs assez ouvert sur les failles, pour mettre une espèce de pression sur le système pour que ça s'améliore.
Mais vous pensez qu'il faut plus de coordination ou il faudrait fonder on parle souvent d'un FBI européen, c'est-à-dire une force qui supranationale qui a des pouvoirs.
Bon, Moi, je dirais que je suis belge et je suis, comme Obélix, tombé dans la potion magique de l'intégration supranationale depuis que je suis petit. Donc, je vous dirais qu'à terme, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Mais dans l'état actuel des traités, c'est pas juridiquement possible de créer, ce que vous avez dit, une sorte de FBI européen qui pourrait mettre ensemble du renseignement. Aujourd'hui, non seulement les services de renseignement ne le souhaitent pas, mais c'est juridiquement impossible. Le Premier ministre belge a fait cette proposition, cette espèce de profession de foi pour l'intégration dans le domaine. Je pense qu'à terme, cela se déroulera sans doute. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. En revanche, ce qui pourrait être fait, et c'est quelque chose que je dis au Premier ministre belge aussi, c'est que la Belgique et ceux qui veulent, comme on a fait Schengen, prendre l'initiative d'une avant-garde, pourraient, en dehors du cadre institutionnel, construire quelque chose de plus structuré.
Par exemple, demain, Charles Michel, le chef de l'exécutif belge, rencontre Manuel Valls. Qu'est-ce qu'on doit attendre de ce type de rencontre? Quelle progression dans la mutualisation des données, par exemple? Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce genre de...
Je ne suis pas associé à l'exercice, donc je n'ai pas vu exactement l'ordre du jour de leur réunion, mais il me paraît assez important d'abord de tirer les leçons. Je dirais que qu'est-ce qui aurait pu empêcher cette affaire de se produire? Est-ce qu'il y a eu des failles de renseignement? Je ne le pense pas nécessairement. Je pense qu'il y a beaucoup... Il y a la question de la collecte du renseignement. Je pense que on doit être plus présent sur le terrain. Alors on parle toujours du recueil des informations électroniques, de l'interception, mais être dans les communautés, sur le terrain, le renseignement humain est d'une importance capitale. Sommes-nous assez sur le terrain? Première question. Deuxième question, c'est un énorme défi, et en Belgique et en France, pour la DGSI notamment, c'est l'analyse de l'information. Vous pouvez avoir l'information et ne pas faire la bonne analyse, et ne pas mettre les priorités où elles doivent être mises. Vous comprenez bien les collègues de la DGSI qui sont confrontés à des milliers de noms. Ils ne peuvent pas tout suivre, ils ne peuvent pas tout faire. Et donc ils doivent faire des choix, et ces choix, c'est une question d'analyse. Je pense que c'est tirer les leçons, mais aussi renforcer fortement les moyens. La France est un pays qui investit beaucoup dans sa sécurité. La Belgique est un peu en retard dans ce domaine. Je pense que là, il y a des coopérations renforcées à établir.
Monsieur de Kerckhove, j'en reviens à la question de Sophie tout à l'heure. Est-ce que la Belgique, elle, a tiré les leçons du fait que énormément des auteurs des attentats du 13 novembre sont originaires de Belgique ou sont passés par là?
Il
semble qu'il y a une coordination.
C'est le pays d'Europe qui envoie proportionnellement le plus de djihadistes.
Mais je ne voudrais pas faire du Belgian bashing. Très honnêtement, Nemouche était français.
C'est pas du bashing.
Il était français. Il est venu tuer en Belgique. La Belgique n'est pas le seul État membre qui a des communautés, un endroit où se concentre plus le phénomène.
Il y a une cellule Molenbeek.
Je suis d'accord, mais il y a aussi un 93 en France, il y a aussi des banlieues en France, il y a aussi des endroits où il y a une criminalité plus forte, notamment en matière de trafic de drogue, et je pense que c'est le cas au Royaume-Uni.
Mais Molenbeek n'est pas le trafic de drogue, seulement c'est le salafisme.
Bien entendu. Et donc, le gouvernement actuel du Premier ministre Michel a décidé des augmentations de budget. Le fédéral, parce que nous sommes un pays avec une structure complexe, a décidé d'aider les communautés locales à améliorer les choses, et je m'en réjouis beaucoup. Oui. Je veux dire que la Belgique, sans doute, paye un certain prix. Elle a été en déficit budgétaire, mais surtout avec une dette énorme, et un sous-investissement dans la sécurité est quelque chose qui ne se ressent pas tout de suite, mais qui a des conséquences de long terme. Je pense que c'est un processus qui est en train de s'inverser.
Gilles de Kerckhove, vous nous décrivez depuis le début de cette émission, au fond, des réponses qui peuvent sembler un peu lourdes, complexes, voire bureaucratiques, face à l'agilité des terroristes qui se faufilent entre les frontières, qui reviennent, qui avaient à deux ou trois personnes peuvent provoquer les attentats qu'on a vus. Est-ce que cette réponse institutionnelle de l'Europe ou des États est adaptée?
Elle est sur la bonne voie, je n'ai aucun doute. Oui, mais et de nouveau, je pourrais multiplier les exemples où nous devrions aller plus vite. Prenons la question de la réhabilitation de ceux qui reviennent. Une de mes craintes, c'est que au fur et à mesure, on en parlera peut-être tout à l'heure, de la pression qui est mise militairement sur Daesh, c'est qu'il y a un retour massif de nos Européens qui sont partis combattre. Sommes-nous prêts? Nous sommes encore aujourd'hui dans une phase de projet pilote. En France notamment, à l'initiative de Bernard Cazeneuve, mais aussi de Madame Taubira, un certain nombre d'initiatives sont lancées. Mais elles ne sont pas encore suffisamment développées, et pas encore assez développées dans l'espace non plus.
Donc on est toujours en retard?
Non, il faut encore accélérer le tempo. C'est, vous l'avez dit vous-même, c'est un phénomène extrêmement complexe, fluide. Gilles Kelpel parle de quelque chose de réticulaire. On n'est pas face à une organisation structurée,
face à un État. D'après vos informations, monsieur de Kerkhove, est-ce que le nombre de départs en Syrie est toujours en train d'augmenter de façon exponentielle à l'échelle de l'Europe?
Dans une phase exponentielle, il est encore dans une phase d'augmentation. Mais on n'est plus dans les augmentations exponentielles que nous avons connues il y a deux ans. Je prends le cas de la Belgique, on reste autour de 400-440 et il y a sans doute quelques départs par semaine.
Il y a un débat en France autour de ce qu'on appelle l'état d'urgence, c'est-à-dire l'état qui s'affranchit d'un certain nombre de règles de justice, renforçant les pouvoirs de la police, notamment sur les interpellations. Cet état d'urgence sera probablement prolongé de trois mois. C'est nécessaire?
Bon, à nouveau, je suis pas la bonne personne pour évaluer, j'ai pas vu tous les chiffres, etc. Ouais. Il est à mon avis tout à fait nécessaire, après ce qui s'est passé au Bataclan et le risque de répétition d'attentats, de prendre toutes les mesures constitutionnelles, et ça fait partie des mesures constitutionnelles, tout à fait acceptables de le faire. La question difficile, on en convient tous, c'est de savoir pour quelle durée vous maintenez un État qui ne peut être qu'un État exceptionnel. Mais je pense que c'est tout à fait indispensable.
Il faut perdre un peu de liberté pour avoir plus de sécurité?
Je pense qu'on peut construire dans nos dispositifs sécuritaires des protections suffisantes. Je n'ai jamais voulu poser le débat en termes de choix alternatifs.
Est-ce que vous avez l'impression que la France ne disposait pas des outils nécessaires pour faire ce travail en dehors de l'état d'urgence ?
De nouveau, difficile de répondre de manière tranchée à cette question. Je pense que je suis même convaincu que l'état d'urgence est nécessaire aujourd'hui parce que l'État est confronté à une menace grave. Le Bataclan n'est pas une affaire de petite ampleur, mais effectivement, la France dispose d'un dispositif qu'elle a raffiné au cours des dernières années avec le vote de, je sais pas, 2-3 lois sur le renseignement, et je suis assez confiant sur la qualité du dispositif.
Christophe, il y a deux mois, les attentats de Charlie Hebdo et aujourd'hui, c'est-à-dire il y a quasiment un an, enfin il y a un peu plus qu'un an, a été adopté le PNR. Oui. Ça n'a pas été sans difficulté.
Le transfert des données de passagers.
Qu'est-ce que ça change ou qu'est-ce que ça va changer? Par exemple, sur le cas qu'on a connu, notamment Nemouche, Abdeslam, Abaoud, etc. Est-ce que le PNR va changer quelque chose?
Le PNR, nous en sommes convaincus, est un instrument indispensable pour détecter les mouvements suspects. C'est aussi un outil très utile pour les enquêtes, mais je ne prends pas cet aspect-là. Et surtout aérien. Vous pouvez l'étendre à d'autres formes de transport. Ça permet, avec des algorithmes construits sur la base de ce que nous dit le renseignement, de sélectionner dans la masse considérable des passagers aériens ceux qui ont un profil qui correspond au profil, je dirais, moyen de ceux qui se rendent en Syrie et en Irak. Et d'en faire ensuite une analyse beaucoup plus fine. Donc ça ne conduit pas à des arrestations, c'est simplement un outil d'analyse qui permet d'être plus performant. Et je pense que vous dites dans le cas Nemouche en fait a été bien contrôlé par les autorités allemandes, donc ce n'aurait pas amélioré Nemouche, c'était plutôt dans le SIS qu'il fallait améliorer, ce que nous avons fait.
Le service Schengen.
Mais dans le cas de ceux qui ont pu faire des allers-retours fréquents, et vous l'avez dit tout à l'heure, et c'est inacceptable qu'on puisse aller en Syrie et revenir 3-4 fois pendant une année, là je pense que ça aurait permis sans doute de les identifier beaucoup plus vite.
Sophie Malibaud.
Je voudrais juste revenir sur les mesures d'exception, le fait d'avoir un état d'urgence qui risque de se prolonger en France au-delà du 26 février prochain. Est-ce qu'il est réaliste de lier l'imposition de l'état d'urgence jusqu'à ce que l'État islamique, l'organisation de l'État islamique soit éradiquée?
Honnêtement, je ne voudrais pas entrer dans un débat purement français sur cette question, d'autant que je n'ai pas tous les éléments. D'abord, l'état d'urgence n'est pas un état sans contrôle. Je crois avoir vu que le Conseil d'État peut annuler des décisions administratives d'assignation à résidence et d'autres mesures de ce type. Donc les libertés sont tout de même préservées. Je pense que donc elles sont. Il y a les contrepoids qui sont nécessaires. Maintenant, est-ce que le terme et le démantèlement de Daesh, ça, c'est, je pense que c'est une décision du gouvernement d'apprécier si, comme vous l'avez dit, le dispositif hors état d'urgence, à un moment donné, est suffisant compte tenu de l'affaiblissement de Daesh. Mon sentiment, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que l'affaiblissement de Daesh en Syrie risque d'augmenter la menace en Europe.
Alors,
donc, ça pose un peu cette question-là.
Nous allons précisément voir quelles sont les suites de la réponse militaire avec la coalition internationale contre l'État islamique. Nous parlons de ça dans deux minutes, immédiatement après ce point d'information sur les antennes de RFI et de TV5 Monde. À tout de suite.
Vous écoutez RFI, les 12h30 à Paris, 11h30 en temps universel.
Marine de la Moissonnière.
Bonjour, l'Union africaine n'en